Depuis vendredi soir, nous étions 11 à ce moment-là, puis plusieurs sont arrivés hier, d'autres sont déjà repartis, et d'autres sont arrivés aujourd'hui, et nous aimons à vous saluer dans le Seigneur, et à réaliser vraiment que ce qui nous lie les uns aux autres dans l'amour, c'est vraiment le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas liés les uns aux autres parce que nous venons de la même communauté évangélique, mais nous sommes liés les uns aux autres parce que nous formons un seul corps, il n'y a qu'un seul corps. Il peut y avoir plusieurs communautés de lieux où on se rassemble, mais il faut toujours nous souvenir que nous sommes un seul corps. Et quand on est lié dans le Saint-Esprit, puis on peut toujours être en communion les uns avec les autres. Car voyez-vous, j'ai souvent pensé à cela. Quand on nous dit que c'est dangereux de prendre trop souvent la scène, parce qu'on peut s'habituer, parce qu'on s'habitue à l'amour, à l'évocation de ce grand amour dont nous avons été aimés, je crois justement qu'il y a une bénédiction très spéciale de prendre la scène régulièrement. Vous savez que au début, dans l'Église primitive, quel était le rythme pour prendre la scène?
Chaque jour.
De sorte que vraiment, une difficulté ne pouvait pas durer plus d'un jour. Oh, le frère. Le soleil ne pouvait pas se coucher sur notre irritation. Bien sûr qu'on est irritables les uns les autres, hein, nous sommes encore charnels, mais puisque on prenait la scène, eh bien, ça ne durait pas plus d'un jour. Et si on la prend tous les dimanches, ça ne devrait pas durer plus d'une semaine. Si on la prend tous les 15 jours, ça ne devrait pas durer plus de 15 jours. Si on la prend tous les mois, pas plus d'un mois, si on la prend tous les 3 mois, comme certains le font, ça ne devrait pas durer plus de 3 mois, puis ça dure depuis des siècles, les divisions. Ça dure depuis des siècles. Puis pourtant, on connaît ces vérités. Alors, mes amis, bénissons Dieu de nous avoir donné ces signes. On n'en aura plus besoin après. On sera dans la gloire avec le Seigneur. On le verra. Alors, dans ces journées, nous nous sommes occupés de chercher des réponses dans la Bible. Nous croyons donc que Dieu, au commencement, a créé le ciel et la terre, puis nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que Dieu faisait avant le commencement? Qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Et nous avons vu, dans les 7 réponses qui nous sont données dans la Bible, qu'il y a eu une grande activité avant le commencement, avant la création de l'univers. Dieu était avec son Fils, la sagesse éternelle, qui est appelée dans Jean la parole, par qui tout fut créé, et dans la communion du Saint-Esprit. Dès les premières pages, nous voyons déjà la Trinité. Et nous avons cherché à voir tout ce qui était établi avant la fondation du monde. Et nous avons fait cette découverte, si nous ne le savions pas, que nos noms ont été écrits avant la fondation du monde. Dans le livre de vie de l'agneau, cet agneau qui était préconnu dès avant la fondation du monde, pour être manifesté au temps propre, c'est quelque chose qui nous dépasse. Alors que, bien souvent, nous disons aux âmes qui viennent de se convertir, ben voilà, maintenant, aujourd'hui, ton nom est écrit. Le Seigneur écrit ton nom. Mais non. Le nom est écrit. Le nom des sauvés est écrit dès avant la fondation du monde. On peut mettre, il y a de la place ici. Et nous avons vu bien d'autres choses qui sont tout à fait merveilleuse. Donc, il y avait un conseil de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et comme les anges ont été créés avant les hommes, les anges ont assisté à la création de l'homme. Les anges étaient des autorités, des puissances qui gouvernaient ce monde que Dieu avait créé ou allait créer. Et alors, nous nous sommes demandé pourquoi Dieu nous dit dans sa parole, au verset 2 de la Genèse, après avoir dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre était désolation et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et donc s'est posé cette question, mais que s'est-il passé? Est-ce que vous concevez que Dieu a créé ce que nous trouvons au verset deuxième? Dans le verset premier, je ne vois pas Dieu créer le tohu-bohu que nous avons au verset 2. C'est pas possible. Dieu crée toutes choses d'une façon merveilleuse. Mais alors, que s'est-il passé? Vous me direz, mais entre le verset 1 et le verset 2, il n'y a rien. Donc, nous n'avons pas le droit de dire quelque chose. Mais nous allons pas mettre, nous, quelque chose. Mais nous allons nous poser la question. Est-ce qu'il se serait passé quelque chose? Parce que lire la Bible, c'est pas lire seulement les premiers versets de la Genèse. Et en essayant de les comprendre. Mais quand je lis le verset 2, à la lumière d'autres passages, par exemple d'Ésaïe, chapitre 45, je lis d'une façon absolument claire que Dieu dit, verset 12, « Moi j'ai fait la terre et j'ai créé l'homme sur elle, c'est moi, ce sont mes mains qui ont étendu les cieux. Et j'ai ordonné toute leur armée. » Et puis, au verset 18, « Ainsi dit l'Éternel qui a créé les cieux, le Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, celui qui l'a établie, qui ne l'a pas créée pour être vide. » Donc alors, il y a une contradiction. Au verset 2, elle est vide. Il ne l'a pas créé pour être vide, il l'a formé pour être habité. Et dans ce verset de la Genèse, la terre était désolation et vide, il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et tous ces mots, que vous le vouliez ou non, nous parlent de quoi? D'un jugement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, au verset 2, la terre nous soit présentée dans cet état chaotique de désolation et de vide. Alors nous revenons à ce que nous avons déjà un peu vu dans la lumière que nous donne le livre de Job, quand Dieu lui-même parle à Job, qui a posé aussi beaucoup de questions. Mais Dieu lui pose la question au chapitre 38, verset 4. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. » quand les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Quand Dieu fondait la terre, tous les fils de Dieu éclataient de joie. Alors, que sont ces fils de Dieu? Vous pouvez lire dans le chapitre 1er de Job. Verset 6. Un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux. Ça nous donne pas mal de lumière. Nous avons dit que Dieu a créé les cieux et la terre, mais les cieux, il en a fait la demeure de certains habitants qui sont supérieurs aux hommes. Il a créé les anges, qui étaient donc les habitants des cieux. Et si nous lisons d'autres passages de la parole, nous voyons que les anges avaient une grande autorité sur tout l'univers, et qu'ils l'ont encore, et qu'ils sont des serviteurs que Dieu emploie en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et ce que nous savons, c'est que celui qu'on appelle Satan, l'adversaire de Dieu, ben, il était parmi les fils de Dieu. Et alors, que vous le vouliez ou non, à moins de nier l'existence de Satan, nous devons reconnaître que cet être que nous trouvons dans le chapitre 14 d'Ésaïe et dans le chapitre 28 d'Ézéchiel, cet être était un des grands chefs parmi les fils de Dieu et avait la direction, semble-t-il, de cette terre qui a été créée et qui a été acclamée par tous les fils de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis tout d'un coup, on voit que la terre est désolation et vide. Et qui est-ce qui avait la direction et la responsabilité de cette terre? Eh bien, selon le chapitre 28 d'Ézéchiel, il semble bien que c'était un chérubin ou un de Dieu et qui régnait sur une terre qui était semblable à Éden. Toute la terre, cette première création que Dieu a faite dans verset 1, était comme Éden. Une terre absolument merveilleuse. Et ce que nous lisons dans le chapitre 3, dans le chapitre 28 d'Ézéchiel, c'est en particulier que le sous-sol, le règne minéral, était d'une richesse merveilleuse. Et alors, qu'est-il arrivé? Bien, cet être, porteur de lumière, comme on le voit dans le chapitre 14 d'Ésaïe, s'est élevé dans son cœur. Mais je me suis souvent demandé, mais à quel moment? Ben, on l'a vu dans ces soirées, il y a donc, avant la création de l'homme, il y avait des rencontres des fils de Dieu avec l'Éternel, avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y avait donc des conciliabules. Et voilà que ce porteur de lumière, qui était un des premiers dans la hiérarchie angélique, s'est révolté. À quel moment? Mais c'est que Dieu a révélé à ses fils de Dieu qu'au fond, tout ce qu'il avait créé, il le créait pour qui? Qui est-ce qui un jour régnerait sur tout l'univers? C'était son fils. C'était son Fils unique. Il allait réunir toutes choses dans le Christ. C'était là le plan de Dieu, ce qui était établi dans l'éternité, si j'ose dire ainsi, passé. Dieu révèle devant les fils de Dieu qui ont acclamé la création, qui ont reçu des missions dans la création, parce qu'on voit que chaque ange avait une ville ou un pays qu'il devait diriger, et ça, le fils de l'aurore, Lucifer, porteur de lumière, avait donc une grande responsabilité. Je ne m'égare pas, parce que le mal est le mal, et il faut bien qu'il ait une cause. Eh bien, que nous dit Jésus? L'origine du mal. Vous allez chercher chez les philosophes, chez les historiens, mais tout cela ne vous donne aucune certitude. Mais que nous dit le Seigneur? Chapitre 8 de Jean, verset 44. Parlant aux Juifs, il leur dit, vous avez pour père le diable. Donc, est-ce que Jésus croyait au diable? Si vous ne voulez pas croire au diable, comme la plupart des théologiens n'y croient plus, vous n'êtes pas d'accord avec Jésus. Alors, si on n'est pas d'accord avec Jésus, on n'est pas d'accord avec le Nouveau Testament, on peut tout rejeter. Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier, depuis quand? Dès le commencement. Vous le retrouvez, le commencement, là. Donc, au commencement, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une révolte. Il a été meurtrier dès le commencement. Il n'a pas persévéré dans la vérité. Donc, le diable a été dans la vérité en temps, avant de s'appeler Satan. Il était dans la vérité, il était un des fils de Dieu. Car il n'a pas persévéré dans la vérité. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, quand je reprends tous les textes bibliques concernant Satan, où il est parlé de la faute, de Satan, qui est une faute de quoi? D'orgueil, hein? Mais c'est lui qui a été le premier à s'opposer à Dieu. Faut jamais croire qu'il y a le Dieu du bien d'un côté, puis le Dieu du mal. Satan n'est pas le Dieu du mal. Satan est simplement une créature de Dieu, qui n'est ni omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent, mais qui a osé s'opposer à Dieu. Le mal, c'est une opposition au bien suprême. Le bien suprême, c'est Dieu. Dieu est Dieu. Il est unique. Il n'y a que lui. Mais parmi ces êtres, ces anges, il y en a eu un qui a osé s'opposer au dessein de Dieu. Et quel était ce dessein qui était établi dans l'éternité passée? C'est qu'un jour, tout reviendrait au Fils. Et que ce que Dieu révèle, c'est qu'il va créer un être au bonheur duquel il va travailler et à qui il exprimera tout son amour. De sorte que les anges apprennent au fond qu'eux ne seront que les serviteurs du plan de Dieu. Or, avant, ils gouvernaient. Avant, ils dominaient. Et maintenant, Dieu révèle qu'il va créer un être sur la terre au bonheur duquel il va travailler et qu'il va rendre semblable à qui? Semblable à son Fils. Dans l'éternité, il a été arrêté avant la création du monde que l'être que Dieu voulait créer, il le rendrait semblable à son Fils, donc supérieur à aux anges. L'homme est supérieur aux anges. Il est inférieur, oui, par nature, mais il était prédestiné à être supérieur aux anges. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je me courbe en disant cela, mais c'est ma conviction profonde, je ne m'en ai pas cherché ailleurs. Jésus lui-même nous dit que le mal a commencé dans le cœur d'un être supérieur, dans le cœur d'un ange. Et c'est lui qui s'est opposé au plan de Dieu. C'est lui qui avait la domination sur la création et il a réduit, à cause de sa faute, cette création à cet état chaotique de désordre que vous trouvez dans la Genèse. Et dans les Romains, au chapitre 8, il est dit clairement que cette création que nous voyons encore si belle, parce qu'elle a été restaurée par Dieu, nous avons fait dans le chapitre 1er de la Genèse, eh bien, ce que nous trouvons ici, au chapitre 8, verset 22, car la création, verset 20, a été assujettie à la vanité, non de sa volonté, mais à cause de celui qui l'a assujettie, dans l'espérance que la création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour jouir de la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toute la création ensemble soupire et est en travail jusqu'à maintenant, et non seulement elle, mais nous-mêmes aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, attendant l'adoption, la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés en espérance, etc. Alors, ce qu'on appelle la chute de Satan, c'est qu'il a voulu s'élever et il a osé s'opposer à Dieu. C'est ça le mal. Le mal, c'est une opposition au bien, une opposition à Dieu. C'est ça le péché. Alors, qui a péché en premier? Est-ce que c'est l'homme? Non, c'est Satan. Et c'est Satan qui a introduit le péché dans le monde. Donc, il faut distinguer Lucifer avant la chute, l'ange de lumière, celui qui participait au conseil de Dieu, dans la Trinité, et qui a osé s'opposer au plan de Dieu. Comme il ne peut pas lutter contre Dieu, d'une façon directe, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'homme, malgré l'opposition de Satan, a été créé, nous voyons Dieu qui le met en garde. Il lui donne une place merveilleuse, le jardin d'Éden. Avant, tout était Éden, mais maintenant, il y a un jardin, il ne faut pas confondre les deux. L'Éden du chapitre 28 d'Ézéchiel, c'était toute la terre qui était comme Éden. Mais Dieu donne pour l'homme, au fond, un jardin qui porte le nom d'Éden, délice et charme. Et il place l'homme là, et Satan, qui ne peut plus s'attaquer à Dieu, va s'attaquer à qui? À la créature de Dieu. Et lui faire croire que Dieu la prive de quelque chose. Alors vous comprenez maintenant le rôle de Satan. Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas anéanti? Bien, dans son conseil, il va encore se servir de lui. C'est ce qui nous montre que le diable n'est pas tout puissant, n'est pas omniscient, n'est pas omnipotent. Et vous avez l'histoire de la tentation. Satan a réussi à entraîner Ève, puis Adam, dans sa propre révolte contre Dieu, en les faisant douter de l'amour de Dieu. Et qu'est-il arrivé? Alors que Dieu avait donné à l'homme de pouvoir régner sur la terre, d'assujettir toute chose, c'est Satan qui est devenu le prince de ce monde. Voilà ce que nous comprenons dans l'Écriture. Satan est devenu le prince de ce monde. Mais, dans le plan de Dieu, tout cela était prévu, et autant convenable, le Seigneur viendrait dans ce monde pour racheter la créature perdue. Et quand le Seigneur est venu, quand Satan n'a pas pu empêcher, au fond, la restauration de toute la création, qu'a-t-il fait? Il a essayé d'empêcher la venue du Messie, la venue du libérateur, qui avait été promis déjà dans le jardin d'Éden. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu la briseras au talon. Alors, vous voyez Satan qui cherche à détruire la postérité de la femme et qui cherche la lignée d'où viendra le Messie. Et il est presque arrivé, hein. Parce que il apprend que c'est par Abraham, et puis il y a la descendance d'Abraham, et puis il y a les rois, et avec une Jézabel, il détruit la semence royale. Il en reste combien? Il a presque réussi. Avec le déluge, combien s'il y en a eu de sauvés? 8. Il a voulu détruire le monde, là. La violence et la corruption étaient sur la terre, mais il n'a pas réussi. Alors, il s'attaque à la lignée d'Abraham, et avec Athalie, eh bien, il fait périr toute la semence royale, et grâce à Jéhoïada, il y a un, le petit Joas, qui est sauvé. Puis, quand Marie est enceinte, qu'est-ce qu'il essaye de faire? De calomnier Marie, pour qu'on ne croie pas qu'elle est enceinte conçue du Saint-Esprit. Et il essaye de massacrer tous les enfants de Bethléem. Pourquoi? C'est toujours Satan qui est là pour s'opposer à la venue de ce libérateur, de ce Messie, pour s'opposer au plan de Dieu. Et finalement, quand Jésus a 30 ans, puis qu'il commence son ministère, qu'est-ce que vous voyez? Satan est là, au désert, pour détourner le Fils de la mission que son Père lui a confiée. Il lui montre tous les royaumes de la terre, et puis il lui dit, je te les donnerai si tu te prosternes devant moi et m'adores. Jésus résiste à Satan. Alors Satan attend un moment favorable. Et le moment favorable, il est où? À la croix. Là, à la croix, il semble que Satan va triompher, Jésus meurt. Mais c'est en mourant que Jésus entre dans la mort et délivre. Tous ceux qui étaient maintenus dans la mort, il les emmène en haut. Et il fait des dons aux hommes. Alors l'Église commence par la résurrection de Christ. Et quelles sont les attaques de Satan maintenant? C'est de ternir le visage de l'Église. C'est de chercher à ce que les chrétiens ne soient pas des vrais témoins. Pourquoi nous avons tant de luttes, tant de combats? C'est que Satan voudrait détruire notre témoignage pour que le monde ne voit pas en nous quelque chose de la personne du Seigneur. Bien voilà ce que la Bible nous enseigne au sujet de l'origine du mal. Pour moi, c'est pleinement suffisant que le Seigneur ait dit que Satan était le prince de ce monde, Donc je sais que c'est pas Jésus qui règne. Donc je m'explique très bien que l'homme laissé à lui-même sans Jésus peut devenir pire qu'une bête, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'injustice, l'iniquité, mais ce n'est pas pour toujours. Dieu a un plan, et un jour, Satan sera définitivement vaincu. Mais, quand les croyants auront été enlevés, alors Satan aura sa dernière carte à jouer. Et ce sera quelque chose de terrible pour la terre et pour les Juifs, ce moment de la grande tribulation. Satan s'incarnera vraiment dans l'homme, et on le voit déjà maintenant. Et alors quand Satan est dans l'homme, qu'est-ce que l'homme devient ? Un meurtrier et un menteur. Que le Seigneur veuille par son esprit nous faire comprendre davantage ces choses et que nous puissions être de ceux qui n'attendent pas une amélioration du monde pour que le Seigneur vienne, mais qui attendent son retour personnel et glorieux. Dieu notre Père, à la fin de cette heure, toi qui nous as montré dans ta parole ce qui était, ce qui est et ce qui va arriver, donne-nous des cœurs